Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Bienvenue dans votre magazine de promotion de vos droits et devoirs. L'impact de la dénonciation présidentielle par le conseiller spécial du chef de l'État. Nous en parlons dans votre émission. La RDC perd chaque année 15 milliards de dollars dus au détournement de fonds publics. Ainsi dénoncé le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, le professeur Luzolo Bambi.
J'ai toujours engagé un débat sur le paradoxe congolais entre la taille de notre budget et le coulage des recettes. C'est-à-dire nous avons un budget de 5 milliards de dollars. Et j'ai toujours affirmé haut que nous perdons chaque année au moins 15 milliards de dollars. Lorsque vous sillonnez les 200 prisons environ à peu près que nous avons au pays, j'ai bien peur que vous ne trouviez pas 5 personnes condamnées pour corruption ou détournement des livres. Sur les 5 000 détenus à peu près que nous avons.
L'ordonnance présidentielle du 14 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme place le conseiller spécial Luzolo Bambi sous l'autorité directe du chef de l'État à qui il rend directement compte de sa mission. À 3 ans d'exercice, les services du conseiller spécial dénoncent, arrêtent et défèrent devant le parquet des personnes soupçonnées de corruption ou de fraude, détournement d'argent. Mais quelques jours après, ces personnes sont libérées aux grandes dames des services du conseiller qui jettent de l'opprobre sur les magistrats. Quel est l'impact de cette dénonciation dite présidentielle? Pourquoi les gens arrêtés sont vite libérés? Comment doivent procéder les services du conseiller spécial? Comment rendre aussi efficaces ces services? Droit et citoyenneté aborde cette problématique avec un expert en questions politico-juridiques et avocat international Emekilolo Moussamba et le magistrat Nicolas Kedinshimba. Cette émission est coordonnée et présentée par Jeff Ngoyi Mulonda sous la supervision de Jean-Marc Matwakimo Felele. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine de promotion de vos droits et devoirs sur l'impact de la dénonciation présidentielle par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'on entend par la dénonciation présidentielle? Nous recevons Maître Emekilolo qui explique.
Lorsque l'on parle de dénonciation présidentielle, ça veut simplement dire ici que pour qu'une personne soit poursuivie par l'office du procureur de la République, ou même qu'une personne soit privée des libertés, eh bien, il faut d'abord que des informations faisant état des éléments de preuve ou des indices d'infraction soient rassemblés à sa charge. Et dans ce cadre-là, le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et les blanchiments de capitaux et même le financement du terrorisme peut effectivement dénoncer auprès soit de la police qui détient en son sein un corps des officiers des police judiciaire ou encore simplement directement auprès du bureau du procureur de la République ou même du procureur général de la République. Dans ces conditions-là, effectivement, il peut y avoir une dénonciation. Mais cette dénonciation n'implique pas une obligation à charge du bureau du procureur de prendre telle ou telle attitude. C'est-à-dire concrètement que la seule autorité habilité en République démocratique du Congo à donner ou à faire une injonction positive de poursuite, c'est le ministre de la Justice.
Pour illustrer ce dont nous parlons, rappelons que le 19 octobre dernier, le directeur général et le pharmacien responsable de la société Zenufa ont passé leur première nuit au cachot du parquet général de Kinshasa Matete. Arrêté et transféré au parquet par les services du conseiller spécial Karkera Premanata, de nationalité indienne, et le Congolais Barthélémy Chikaya ont été accusés de fraude, contrefaçon de la quinine, faux et usage de faux, fait prévu et puni par le code pénal congolais. Après 48 heures de détention au parquet, ils ont été transférés à la prison centrale de Makala où ils ont comparu en chambre de conseil puis rapidement mis en liberté sous caution. Ce qui a provoqué un tollé entre les services du conseiller spécial, en l'occurrence le conseiller principal de Luzolo, Boniface Kabisa, et le président du syndicat autonome des magistrats du Congo, Sinamak, procureur Edmond Issofa. On les écoute.
Tout d'abord, nous ne pouvons pas nous ingérer dans la procédure au niveau du parquet. Et puis, la libération provisoire, c'est une procédure prévue par la loi. Mais nous sommes tout de même étonnés et ahuris lorsque les faits repris dans ce dossier sont d'une rare gravité, qu'on peut rapprocher ça au terrorisme, une personne qui aveuglément donne la mort à nos concitoyens. Les faits sont établis, les preuves sont là. Le procureur général près de la cour d'appel a entériné notre travail. Le premier juge l'a confirmé et l'argent a fait le reste et ces gens sont en liberté.
Quand vous dites que l'argent a fait le reste, on se souvient que dans l'émission Dialogue entre Congolais consacrée à ce dossier, vous craignez que les magistrats ne soient corrompus pour obtenir la libération du DG de Zenoufa. Est-ce que c'est ce qui s'est passé?
Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'une personne qui a commis une infraction qu'on appelle infraction continue et qui met en danger les millions de vies soit mise en liberté sans qu'on ait pris des précautions sur la santé de la population, soit de fermer, soit de mettre sous surveillance l'objet même des tueries de nos compatriotes? Comment pouvez-vous expliquer? Vous savez, la corruption, c'est comme l'adultère. On ne peut pas le prendre en flagrant délit. Mais on voit que les conséquences de la corruption, et on se rend compte que la corruption est passée par là. Autrement, comment pouvez-vous expliquer que les pharmacies, que les produits en question continuent à prendre une précaution quelconque?
Lorsque finalement l'argent, la corruption ont le dessus sur l'action du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, quel sens faudrait-il encore donner à ces actions?
Eh bien, chacun de nous fait ce que la République demande de lui. Le conseiller spécial a une mission donnée par le chef de l'État. Il l'a fait. Les magistrats ont la leur. Il rend jugement au nom du peuple congolais. Et c'est le même peuple qui est maintenu aujourd'hui contre qui le magistrat s'est retourné. Moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai entendu beaucoup de réactions. Mais ces gens, quand il s'agit de la politique, on les voit en train de manifester. Mais quand il s'agit de leur vie, de la vie de nos compatriotes, personne, ni la société civile, ni les églises qui ont l'habitude de critiquer, personne ne dit non. Et ça, vous laissez le feu vert aux magistrats, vers eux.
Peut-on conclure que le conseiller spécial ne bénéficie pas du soutien du chef de l'État, parce qu'on a l'impression qu'il est abandonné à lui-même?
Mais non, mais pourquoi? Mais il est dans le cabinet du chef de l'État. C'est le contraire. Le chef de l'État veut démontrer que s'il y a le laxisme, s'il y a l'impunité dans ce pays, ce n'est pas lui. Ce sont les institutions chargées de la répression qui ont signé un acte de non-agression avec les délinquants via l'argent. Point barre.
Après ces accusations faites par un des services du conseiller spécial à la personne de Boniface Kabisa contre les magistrats, au micro de Alain Irung, je vous invite à suivre maintenant le président du CINAMAC au micro de Paul Matendo.
Edmond Issoufa, bonjour.
Bonjour.
Le directeur général des UNFA a arrêté vendredi 19 octobre dernier sur instruction du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, a été libéré quelques jours après. Cette libération étonne son conseiller principal, Boniface Kabisa. Que s'est-il passé exactement?
Les faits tels que présentés ne reflètent pas la réalité. Nous avons cherché à en savoir plus par des recoupements. Donc nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a un autre intérêt que celui d'une bonne administration de la justice par rapport à ces dossiers. Donc ce monsieur a dépassé les limites. Permettez que je l'appelle monsieur. Que ce monsieur passe à la télé pour vilipender le magistrat, pour vilipender le procureur général, c'est extrêmement grave.
Quels sont concrètement ces faits?
Bon, après recoupement, il s'est fait qu'il y avait un dossier en instruction au niveau de Bukavu, puisque ce sont les mêmes faits. Pour les mêmes faits, pardon, il y a un dossier qui a été ouvert au parquet des grandes instances de Bukavu, il y a plus de 2 ans. Et qu'à l'issue de l'instruction, d'après mes informations, on a même eu à sceller certains entrepôts de la société qui est concernée. Et après le parquet, ou pendant que le parquet général de Bukavu a été saisi, un autre dossier va être ouvert là où ce monsieur travaille. Et c'était instruit par un de ses collègues, un inspecteur Moindo, qui a fait rapport au procureur général, il y a de cela une année ou deux ans, demandant au procureur que le dossier instruit par lui soit classé pour éviter une instruction parallèle. Ce sont les mots qu'il a utilisés dans son rapport. Et les rapports en question existent, raison pour laquelle le procureur général aille à classer ces dossiers. Mais curieusement, des années après, pour les mêmes faits, un autre dossier est ouvert. Et on arrête ce monsieur-là un vendredi à 17h et à 20h, on les transfère au parquet. Et après instruction, en âme et conscience, le magistrat a estimé qu'il fallait accorder la liberté provisoire le temps de pouvoir poursuivre l'instruction, d'autant plus que les produits soi-disant contrefaits n'ont jamais accompagné les dossiers. Donc si lui a des produits contrefait, il n'a qu'à les mettre à la disposition de la justice pour que l'officier du ministère public prenne des dispositions par rapport à cela.
Après cette libération, Boniface Kabisa a affirmé que l'argent a circulé. Il s'agit selon lui de la corruption. Comment réagissez-vous?
C'est pourquoi je l'appelle le procureur général pour qu'un dossier soit ouvert dans ce sens, qu'il dise réellement si l'argent a circulé. Vous savez, l'histoire des produits pharmaceutiques, c'est une question de santé publique. Ça concerne tout le monde. Et ça concerne également nos magistrats. Mais la façon dont la chose est présentée par ces messieurs, non seulement ils jettent l'opprobre sur les magistrats, mais ils livrent pratiquement les magistrats à la vindicte populaire. Puisqu'il est allé loin jusqu'à demander à ce que la population marche contre les magistrats. Donc c'est facile de dire, puisqu'il a même comparé la corruption à l'adultère. Il oublie que chaque infraction a des éléments constitutifs. Et c'est au regard des éléments constitutifs qu'on apprécie les faits. Bon, il a parlé de produits contrefaits. Où sont ces produits? Alors, s'il a gardé ses produits, il n'a qu'à les mettre à la disposition du parquet.
Toujours, selon le conseiller principal de l'Zolobambi, le directeur général des UNFA, Karkira Premanata, a commis une infraction continue. Quelles sanctions réserve-t-on à celui qui commet telle infraction?
Voilà, en fait, une autre question, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'une infraction continue? En fait, c'est le contraire de l'infraction instantanée. C'est une infraction qui est commise et de façon continue, jusqu'à ce qu'on y mette fin dans son exécution. Mais lorsqu'il parle d'infraction continue, c'est un type d'infraction. Mais est-ce c'est la contrefaçon à laquelle il fait allusion? Ça, je ne sais pas.
Cette affaire a été dénoncée par les conseillers du chef de l'État, Luzolobambi, et vous dites qu'il n'y a pas de preuves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits contrefaits. Selon vous, ce travail n'a pas été très bien fait par son cabinet ou qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai dit simplement ceci. Je ne voudrais pas aborder le fond du dossier puisque je ne suis pas magistrat instructeur. Mais les recoupements que nous avons faits, puisque nous avons été jusque à la source pour pouvoir vérifier, on n'a pas transmis au moins au parquet des produits contrefaits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de produits contrefaits, mais je dis que le dossier transmis au parquet général n'a pas été accompagné de produits contrefaits. Et c'est ça la question. Et pour les mêmes faits, un dossier est ouvert au parquet général de Bukavu. Donc, il est normal que les magistrats puissent réfléchir et éviter un double emploi. C'est ça, en fait, la réflexion et la question, c'est celle-là. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de produits contrefaits, mais je dis simplement que le dossier transmis n'a jamais été accompagné de ces produits contrefaits.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Le magistrat Nicolas Kedin Chimba parle des rapports entre le conseiller spécial et le pouvoir judiciaire qu'il représente.
Vous savez que l'initiative que le chef de l'État avait prise pour créer ce service reste louable, mais la mise en application de ce service ou son fonctionnement rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Parce qu'il faut d'abord déterminer la nature réelle de ce service, ce qui est dit dans l'ordonnance présidentielle, et les rapports qui doivent exister entre la justice et le conseiller spécial du chef de l'État. Je veux d'abord préciser en fait que le conseiller du chef de l'État, il relève du cabinet du président de la République. En tant que tel, il est chargé d'établir des stratégies pour pouvoir lutter contre la corruption, le blanchiment, ainsi de suite. Et à partir de ses fonctions, à mon humble avis, je crois qu'il doit d'abord, après avoir mené des investigations, faire rapport au chef de l'État qui pourra alors dénoncer les faits constatés par les services du conseil spécial du chef de l'État au pouvoir judiciaire. Or, dans le cas d'espèce, le conseiller spécial du chef de l'État agit comme s'il était une juridiction parallèle. Ce qui fait qu'on ne sait pas établir le rapport qui peut exister réellement entre les trois pouvoirs. Or, la Constitution établit le président de la République comme une institution. Et les trois pouvoirs. Et le président de la République est lié au pouvoir exécutif. Et en étant lié au pouvoir exécutif, la justice étant indépendante, ces services ne peuvent pas interférer directement au fonctionnement du service judiciaire. Or, ce qui se passe dans le cas d'espèce, on constate que le conseiller spécial du chef de l'État instruit, il arrête et il envoie les dossiers directement au parquet. Et en faisant cela, nous demandons maintenant, est-ce qu'il travaille comme OPJ ou il travaille comme conseiller du chef de l'État? S'il travaille comme OPJ, c'est qu'il fait partie du pouvoir judiciaire et dans ce cas-là, il travaille sous les ordres du procureur. Mais dans le cas d'espèce, on a l'impression que le conseiller spécial, quand il a mené les investigations, il impose. Il veut qu'on suive la position qu'il a arrêtée, comme le cas qui s'est passé dernièrement. Il a arrêté les gens, c'est vrai. Il les a envoyés, mais le parquet a estimé qu'il n'avait pas envoyé des pièces à conviction et que les faits n'étaient pas totalement établis. Il est attaché à la présidence de la République. Il n'a aucun rapport avec la justice. L'ordonnance dit bien ceci. Il doit faire rapport au président de la République.
Peut-être qu'il le fait.
Oui, mais s'il le fait, c'est le président de la République qui, compte tenu des éléments en sa possession, saisit le pouvoir judiciaire. Et quand on saisit le pouvoir judiciaire...
Il le fait à travers son conseiller spécial. Il représente la dénonciation présidentielle.
Mais là, c'est très bien, même s'il le fait. Celui qui a dénoncé attend seulement que la justice fonctionne indépendamment et selon les règles de l'art. Mais dans tout ce que nous vivons, nous constatons que les délateurs ou celui qui dénonce veut qu'on suive sa ligne de conduite. Or, il faut qu'il y ait quand même de la coordination. Il faut respecter aussi l'indépendance de la justice.
Est-ce que les magistrats ne reçoivent-ils pas de pression extérieure ou ne se font-ils pas corrompre? Edmond Issofa, procureur de la République près le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba et président du CINAMAC.
Je ne puis rien vous dire, mais je sais une chose simplement, qu'un magistrat digne de ce nom agit en âme et conscience. Et lorsqu'il pose des actes, il doit assumer les conséquences de ces actes, puisqu'il les a posés, donc ce sont des actes réfléchis, puisqu'ils se fondent sous les prescrits de la loi. Donc je me limite à cela. Donc si on doit voir, pourquoi est-ce que nécessairement on doit voir quelqu'un derrière les actes de magistrat?
Radio Okapi. Droit et citoyenneté.
Droit et citoyenneté se poursuit. Nous parlons de l'impact de la dénonciation présidentielle par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance. Nous recevons Maître Aimé Kilolo qui explique les compétences dévolues au conseiller spécial et la procédure à la matière.
Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le conseiller spécial du chef de l'État dans le domaine concerné réunit un certain nombre d'indices graves ou des éléments de preuve qui indiquent que telle personne serait responsable des actes de corruption. À ce moment-là, pour pouvoir déclencher des poursuites à charge de cet individu, il a deux possibilités. Première possibilité, c'est d'informer le procureur de la République ou le procureur général selon le cas. À ce moment-là, il appartient au bureau du procureur d'examiner si les indices sont suffisamment réunis pour poursuivre des enquêtes et éventuellement assigner cette personne devant le tribunal répressif. Il peut même décider de classer sans suite le dossier s'il estime que les éléments de preuve ne sont pas suffisamment réunis. L'autre possibilité, qui est à la disposition du conseiller spécial du chef de l'État, c'est effectivement de saisir dire, le ministre de la Justice et de solliciter à ce moment-là que, au nom du président de la République, qui doit en être informé, solliciter que le ministre de la Justice use de son pouvoir d'injonction positive. À ce moment-là, ce sont les attributions, cela relève du pouvoir propre du ministre de la Justice de donner des injonctions au procureur de la République ou au procureur général d'engager de poursuites, c'est-à-dire d'assigner une personne devant le tribunal répressif qui pourra à ce moment-là le juger pour tel ou tel fait. Mais sinon, d'emblée, l'ordonnance qui crée le service du conseiller spécial prévoit qu'il y aura au sein de ce bureau du conseiller spécial des agents de la police judiciaire. Mais seulement, il faudrait encore, pour que le conseiller spécial, le cas échéant, ou que certains de ses collaborateurs soient revêtus de ce titre, de cette qualité d'officier de police judiciaire, il faudrait que le ministre de la Justice puisse prendre un arrêté ministériel en exécution de cette ordonnance présidentielle, désignant certains membres du bureau du conseil spécial et en leur attribuant la qualité d'officier de police judiciaire. Tant que un tel arrêté ministériel ne sera pas intervenu, eh bien, le conseiller spécial ou des membres de son cabinet n'ont pas qualité pour priver de liberté un citoyen, même pas dans le cadre de la garde à vue. Alors, cela étant dit, il faut se poser la question de savoir quelles sont aujourd'hui les autorités habilitées à priver des libertés et quels sont les différents types de privation des libertés qui existent dans notre pays. Il y en a essentiellement quatre. Première possibilité, une personne peut se voir privée de liberté dans le cadre de la garde à vue. Et l'autorité qui peut ainsi priver de liberté, c'est bien entendu un officier de police judiciaire. Deuxième possibilité de privation de liberté, c'est lorsque un individu se retrouve sous mandat d'arrêt provisoire, communément appelé MAP. Et ici, particulièrement, cette décision ne peut être prise que par un officier du ministère public, c'est-à-dire un magistrat du parquet.
Quel peut être l'impact de cette dénonciation avec des gens qu'on arrête et qu'on libère?
Eh bien, il faut rappeler que le principe de séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire veut que le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption ne peut pas de lui-même donner des injonctions à un procureur de la République de poursuivre une personne. Il peut encore moins donner des injonctions à un magistrat du siège, à un juge, de condamner une personne. Donc, le pouvoir judiciaire fait œuvre de justice en toute indépendance. La seule possibilité qu'il peut avoir, c'est de solliciter l'autorisation du président de la République, chef de l'État, pour que des instructions soient envoyées au ministre de la Justice, qui lui, dans un cas déterminé, au vu de des éléments de preuve réunis, peut donner une injonction positive. Mais il ne peut pas donner cette injonction au juge, il peut simplement se limiter à le donner au procureur. À ce moment-là, le procureur n'a pas le choix, il est obligé de déférer la personne devant le tribunal, pour le tribunal de décider. Ça, c'est en ce qui concerne la poursuite elle-même. Maintenant, en ce qui concerne la privation de liberté, mêmement, tant que il n'y aura pas eu un arrêté du ministre de la Justice ou une loi accordant la qualité d'officier de police judiciaire au conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption ou à certains agents de son office, eh bien, ils n'ont pas qualité pour priver de sa liberté un individu. Nous sommes dans un État démocratique. Le droit à la liberté est un droit sacré qui est consacré dans le pacte suprême, c'est-à-dire dans la Constitution de la République.
Quelle solution à cette problématique? On écoute le magistrat Nicolas Nkedinshimba.
Le chef de l'État, c'est un homme. Mais le président de la République, en tant qu'institution, c'est une institution suprême. Et cette institution ne peut que vouloir que l'administration de la justice se fasse en toute indépendance et en connaissance de cause. Donc, le chef de l'État peut chercher, par exemple, à faire en sorte qu'il y ait une coordination des services entre le pouvoir judiciaire et les services du conseiller spécial. Et qu'on puisse travailler de manière à récolter tous les éléments avant même que les hommes soient aient déjà la puce à l'oreille et qu'ils commencent à se couvrir avant même d'arriver au parquet. Alors, s'il travaille avec la collaboration des services judiciaires, il aura tous les éléments, il amène au chef de l'État et le chef de l'État saisit le pouvoir judiciaire par la voie légale.
C'est quoi la voie légale?
Il y a des mécanismes de mise en accusation ou de dénonciation ou l'ordre d'ouvrir une information commission judiciaire à charge de telle ou telle personne. Mais s'il y a la précipitation, on veut faire voir qu'on agit mieux. Or, ça demande une mûre réflexion.
Radio Capi donne la parole aux enfants sans exclure les adultes. Tous les vendredis à partir de 14h15, rediffusion tous les dimanches à 2h10 et mardi à 15h30. Les enfants et les adultes débattent sur les sujets qui les concernent sur votre radio.
L'impact de la dénonciation présidentielle à travers les services du conseiller spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi. Droit et citoyenneté en parlent avec le magistrat Nicolas Kedin Chimba et l'avocat Aimé Kilolo. L'expert en questions politico-juridiques aborde la dernière partie de notre émission sur la légalité des poursuites engagées par ces services avant de conclure.
Eh bien, il faut dire que cette dénonciation présidentielle est de la plus haute importance. Parce que ça envoie un message clair à la classe politique, aux dirigeants, au personnel de l'administration pour dire nous mettons fin définitivement à la corruption dans notre pays, nous mettons fin à la corruption qui empêche même l'émergence économique de notre pays. Parce que lorsqu'un investisseur veut mettre en œuvre un projet économique à travers le pays, on ne peut pas lui demander de pot de vin pour pouvoir investir dans le pays. Lorsque ce même investisseur veut obtenir certaines autorisations, certains permis auprès de l'administration, on ne peut pas lui demander de l'argent ou des avantages quelconques. Mais ce même investisseur, lorsqu'il commence à travailler, à mener ses activités d'exploitation économique dans notre pays, il ne peut pas non plus se soustraire de son obligation de payer les impôts qui doivent venir alimenter la caisse de l'État en remettant de l'argent à certains contrôleurs du ministère des Finances et autres. Donc tout ceci doit effectivement arrêter pour que notre pays puisse davantage décoller d'un point de vue économique. Et c'est raison pour laquelle je salue en tout cas cette initiative de son excellence Monsieur le chef de l'État, président de la République, et aussi dire tout simplement que la politique criminelle du gouvernement doit être davantage transparente, doit être rendue publique, et tous les services des parquets à travers les 26 provinces de la République doivent recevoir des instructions claires du ministre de la Justice en ce qui concerne les infractions prioritaires qui doivent être poursuivies pour permettre finalement de concourir à la politique du chef de l'État qui est le garant de la Constitution, c'est-à-dire arriver à redresser le pays d'un point de vue économique, arriver à redresser aussi les tissus sociaux, arriver à restaurer la paix et renforcer la démocratie. Parce que vous savez que la corruption, mais on la retrouve beaucoup dans les zones des conflits armés. Et lorsque l'on aura enrayé le phénomène de la corruption, eh bien, ça va aussi concourir à mettre fin justement à ce phénomène de la prolifération des bandes armées dans notre pays. Et surtout ici, la problématique du blanchiment. Parce que les conflits armés génèrent de façon illicite des masses d'argent colossales qui sont généralement exploité dans le cadre du blanchiment des capitaux. Et donc, sanctionner lourdement le blanchiment de capitaux va concourir aussi à mettre fin au phénomène des conflits armés dont souffre notre pays depuis de nombreuses années, raison pour laquelle je considère que parmi les priorités du prochain gouvernement à l'issue des élections, il faudra inscrire en tout cas cette consolidation de la politique qui est imprimée par le chef de l'État.
Nous recevions Aimé Kilolo, avocat et spécialiste du droit. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève le magazine Droit et citoyenneté d'aujourd'hui sur l'impact de la dénonciation présidentielle qu'a fait le conseiller spécial du chef de l'État. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sous la fréquence de la paix.